CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bienvenue dans ce mag du pays Midi-Quercy, merci d'être là et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous proposera plusieurs animations telles que des conférences, visites guidées ou concerts organisés avant partenariat avec le pays d'art et d'histoire du pays Midi-Quercy. Ce sera pour la deuxième partie. Et dans la première partie de ce mag du pays Midi-Quercy, on vous parle d'offres de services au public, de centralité des bourgs, de logements, de mobilité alternative. On vous parle de deux contrats qui sont coordonnés par le PETR du pays Midi-Quercy. Le CRTE, le contrat pour la réussite de la transition écologique avec l'État en chef de file, et le CTO, le contrat territorial Occitanie avec la région en chef de file. Deux acronymes barbares que va nous détailler Philippe Darbois, le directeur du PETR du pays Midi-Quercy. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors avec un calendrier, une bonne grosse enveloppe et plein d'opérations maintenues, on commence par détailler un petit peu qu'est-ce que sont ces dispositifs et le rôle du pays Midi-Quercy en tant qu'animateur de ces dispositifs.
Alors nous sommes sur deux dispositifs pluriannuels qui ont été renouvelés suite au début des mandats en fait. Il y a une similitude d'avancement avec les mandats des élus des communes. Et donc depuis 2021, à peu près 2021-2022, on a renouvelé donc le contrat donc pour la réussite de la transition écologique qui au départ s'appelait le contrat de relance et de transition écologique. Et donc là, depuis quelques mois, notamment lors de cette réunion de suivi qui a eu lieu dans l'été, le comité de pilotage, l'État, à travers la secrétaire générale de préfecture, nous a informé de l'évolution de cette terminologie pour bien montrer aussi l'importance accordée par l'État à l'accompagnement des projets qui répondent aux objectifs de la transition écologique. Donc là, maintenant, on est sur un contrat pour la réussite de la transition écologique. Alors derrière, ces termes qui peuvent paraître un peu de la com, il y a quand même réellement un souci d'accompagner des projets répondant à ces objectifs, et notamment à travers la collecte des projets, on sollicite les maîtres d'ouvrage pour vérifier avec eux s'ils répondent à un des six objectifs environnementaux qui ont été caractérisés pour la transition écologique. Donc je peux vous les citer rapidement, qui sont la lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique et contre les risques naturels, la gestion de la ressource en eau, l'économie circulaire, déchets, prévention des risques écologiques, la lutte contre les pollutions et la biodiversité, la protection des espaces naturels. Et ensuite un septième objectif qui est plus générique, et qui est l'impact sociétal du projet. Donc à travers cette grille d'analyse des projets, on arrive à mieux cerner vers quoi ces projets entrent bien dans les objectifs de la transition écologique, puisqu'ils doivent à chaque fois, pour chaque objectif, indiquer s'il y a un effet positif, un effet neutre ou un effet négatif. Bon, ça c'était pour illustrer cet engagement de plus en plus fort dans la transition écologique de ce CRTE. Et en parallèle, on a donc aussi un autre contrat avec la région qui d'entrée était clairement affiché avec cet objectif-là, puisqu'il y a un pacte vert de la région depuis quelques années et qui donc s'appelle donc le contrat de territorial Occitanie et qui permet également de soutenir des investissements des communes et comcom et qui répondent également à travers ces projets à notre projet plus global, le développement durable du territoire 2021-26, correspondant donc au mandat en cours. J'ai été un peu long peut-être, mais ça permet comme ça de montrer la cohérence de l'ensemble de ces dispositifs et de cette orientation forte vers la transition écologique.
Alors cohérence, oui, d'autant qu'au pays, vous n'êtes pas spécialement dépaysé. Ces valeurs de transition écologique, vous les portez vraiment au quotidien. Et puis ces enveloppes budgétaires aussi, je pense notamment au programme européen Leader, là ça n'a rien à voir. Ce sont des opérations sur les trois EPC, donc la communauté de communes Quercy-Roer-Gorges de l'Aveyron, Quercy-Vert-Aveyron et Quercy-Caussadet, qui sont maintenues en 2024 sur un budget de combien à peu près? Puisque là, on a déjà parlé des critères.
Alors du coup, là par exemple, sur la programmation 2024 qui est en cours d'élaboration, on est sur une cinquantaine de projets qui seraient retenus, précisément 54, et de fait, même 59, pardon, 54 c'était l'an dernier, et on est sur des coûts d'opération qui s'élèvent à peu près à, en tout, à 24 millions d'euros d'investissement, et qui pour l'instant mobiliseraient. Alors je parle au conditionnel parce que tous les dossiers de subvention ne sont pas encore instruits, ils sont en cours de lettre, mais il y aurait déjà plus de 5 millions d'euros de l'État, de soutien direct à ces projets, à travers différentes dotations de l'État, notamment la DETR, dotation pour les territoires ruraux. Et ensuite, la région et le département sont également en train d'instruire beaucoup de dossiers. Et donc, pour l'instant, les montants ne sont pas très élevés d'aide, mais ça va être consolidé. Donc, on est quand même sur une programmation 2024 qui est assez importante, ce qui est logique puisqu'on est au cœur du mandat et que, bien sûr, les maires notamment et les présidents des COMCOM ont travaillé depuis 3 ans à l'élaboration de ces projets. Et donc, il faut savoir qu'un projet, entre le moment de la réflexion et sa réalisation, voire même le commencement de la réalisation, on est souvent sur deux années entre les études préalables, les différentes réglementations à respecter, les dossiers à déposer. Voilà, donc c'est qu'en 2024, on est sur un certain nombre de projets, des projets qui vont répondre à notamment des services à la population pour essayer d'améliorer le bien-être et la qualité de vie sur le territoire. On a notamment des projets autour de la santé, avec une maison médicale à Montclar qui se structure. On a surtout une maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Antonin-Aubleval, qui était dans les tuyaux depuis quelque temps et qui là, ça y est, est déposé, va commencer à être construit. Donc ça va être un projet extrêmement important pour le secteur. On a également une extension même de la maison de santé de Montrécoux, qui est en perspective, plutôt pour l'année prochaine. Et au niveau de services encore de proximité, on a aussi plusieurs projets, donc là notamment il y en a deux cette année, de maisons des assistantes maternelles. Donc c'est un nouveau concept qui permet de regrouper des assistantes maternelles dans un lieu et qui répond visiblement pleinement aux attentes des parents. Donc il y a un projet à Montrécoux qui est assez important, à l'ancienne maison dite de la spéléologie pour ceux qui connaissent, et à Vaïssac également il y aurait un petit projet, et puis d'autres sont en cours de réflexion dans d'autres parties du territoire. Et ensuite, pour terminer sur les services à la population, on a plusieurs projets d'équipements sportifs et qui, peut-être sont liés, c'est peut-être une coïncidence, mais à une année olympique, mais on a notamment à la salle de table et de montée plusieurs équipements importants pour développer la pratique sportive, notamment au niveau du judo et d'autres activités. Et ensuite, on a notamment aussi à Négropolis un pomme trek qui a été terminé d'ailleurs, qui répond tout à fait à des nouveaux besoins pour pratiquer ces activités de vélo, BMX ou autre sur un circuit aménagé. Et et ensuite, pour finir sur ces services, on a aussi des projets d'équipement culturel, avec notamment sur une COSAD, un projet intercommunal culturel de médiathèque qui serait déplacé sur l'ancien lycée Jean-Louis Etienne, où il y a déjà l'école de musique intercommunale qui a été déplacée. Voilà.
Renforcement des services et puis des dossiers aussi accès logement, mobilité.
Il y a en effet plusieurs projets de logements communaux qui sont proposés, donc qui consistent notamment à rénover souvent des bâtiments anciens et qui permettent ainsi, grâce à des aides qui sont indispensables pour ce type d'opération, puisqu'on est sur des bâtiments à rénover entièrement, avec un équilibre financier qui serait très délicat uniquement avec les loyers. Et donc, on a notamment un projet à Castanet, à Ginal, et de mémoire, il y en avait eu aussi à Kerriech. Voilà. Et ensuite, au niveau rénovation thermique également, on a beaucoup de projets toujours de rénovation thermique de bâtiments publics. Notamment, on a une salle des fêtes encore à Castanet. On a des projets de rénovation thermique sur de logements communaux à Auty. Et puis ensuite, on a notre opération qui perdure là, depuis quelques années, portée par le PETR, de conseil aux habitants pour la rénovation thermique de leur logement, dans le cas d'un guichet unique de conseil. Voilà. Et ensuite, on a aussi des projets de mobilité douce qui, chaque année, on voit que les communes essayent de plus en plus de proposer des, ce qu'on appelle des liaisons douces qui permettent des cheminements piétonniers et vélos qui cohabitent. On a notamment un Négropolis qui poursuit ses différents secteurs qui ont déjà fait pas mal de projets dans la matière. Il y a Albias aussi qui va continuer, ainsi que Verseilles qui va également faire un cheminement sur la voie principale du village. Donc ça sera nouveau pour ce village. Et Réalville qui poursuit également un certain nombre de tranches de liaisons douces.
Qui instruit ces dossiers? Qui les propose?
Alors, donc ça, ce sont des projets qui remontent donc des communes, essentiellement, et parfois des communautés de communes. Par exemple, tout à l'heure, je citais le pôle culturel intercommunal. Et donc, elle remonte à travers les services de ces administrations. Et ensuite, on fait un travail d'accompagnement de ces projets pour... Et déjà, comme je disais tout à l'heure, vérifier qu'ils répondent bien aux objectifs de la transition écologique. Donc, il y a un certain nombre de critères à respecter. Et une fois que c'est le cas, les propose sur un listing dit de programmation opérationnelle et c'est soumis à un comité technique, puis à un comité d'âge présidé par l'État, la région et bien sûr le PETR, où sont associés les trois COMCOM et un certain nombre d'élus. Et ainsi, il y a une validation de ces opérations. Et chaque année, donc là, on va refaire un copil en novembre-décembre, la validation de cette programmation est définitive et permet ainsi d'avoir un tour de table financier, notamment donc de l'État, de la région, du département, parfois de l'Europe, pour ces dossiers, et de façon à optimiser les financements publics autour de projets qui sont considérés comme prioritaires, puisque répondant notamment aux objectifs de transition écologique, mais aussi aux différents axes du projet de développement de durable du pays, qui a été donc actualisé en 2021.
Pour donc 59 opérations maintenues en 2024 et 24 millions d'euros distribués donc dans le cadre de ces dispositifs territoriaux coordonnés par le PETR du pays Midi-Quercy. On parlait donc du contrat pour la réussite de la transition écologique, le CRTE, avec l'État en chef de file, et pour la région, le CTO, le contrat territorial Occitanie. Philippe Darbois, un dernier mot?
Eh bien, écoutez, l'important, c'est bien sûr de poursuivre cette dynamique d'investissement. Il y a encore deux petites années pour la fin de ce mandat, mais on est conscient que les grosses opérations sont quand même bien lancées et que là, maintenant, on est déjà presque à une fin de mandat et de préparation à un futur mandat. Donc, on est plus à nouveau sur des réflexions et sur des réflexions qui vont amener d'autres projets, mais pour le prochain mandat.
Le directeur du PMI, Midi-Quercy, nous parlait de ces dispositifs territoriaux. Un grand merci, Philippe Darbois.
Merci.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
En deuxième partie de ce MAG du pays Midi-Quercy, on vous propose une visite guidée à Montricou, de l'orgue à Saint-Antonin-Nobleval, et puis une conférence. Ce sera là ce vendredi du côté de Négrepelisse, une conférence autour du catharisme. C'est Aude Caverzan, la chargée de programmation du pays d'Arrêt d'Histoire, qui va tout nous dire. Bonjour Aude.
Bonjour Lisa.
Et vous avez invité Christian-Pierre Bédel. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, c'est vous qui allez animer cette conférence à Nègrepelisse. Aude, cette programmation s'inscrit dans quel cadre, dans le Pays d'Arrêt d'Histoire ?
Oui, c'est dans le cadre du Pays d'Arrêt d'Histoire, en effet, en collaboration avec l'association Les Échanges Essentiels, qui organise des conférences tous les mois, à chaque fois sur un sujet différent, mais assez large pour intéresser un public large, voilà. Et à chaque fois, cette conférence est un vendredi par mois à 18h30, toujours pour créer une habitude au château de Nègrepelisse. Et si elle suscite l'intérêt de certaines personnes, elle peut se poursuivre par un atelier d'échange le mardi qui suit la conférence, toujours à 18h30. Et là, c'est l'occasion d'entrer un peu plus en profondeur sur le sujet, là en l'occurrence des cathares. Mais il y a une conférence sur le thème de l'eau par Christian Tchoqueux. Enfin, voilà, il y a des sujets très, très variés. Et là, voilà, cette fois, c'est en collaboration avec nous, avec la SAFSA aussi, la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, qui organise en général des conférences en été. Et là, on prolonge leur cycle de conférences hors saison estivale. Et en partenariat aussi avec l'AVQR, donc une association de vidéos, et l'IEO, l'Institut d'études occitanes.
Donc vous faites partie tous les deux, hein, Christian-Pierre Bedel, autant de la VQR, association vidéo Quartier Rouergue, que l'IEO.
Ouais.
Donc grand spécialiste de l'Occitan, des cathares.
Absolument.
On va parler de quoi vendredi ?
On va présenter ce qu'était le catharisme en général, mais ça c'est juste en introduction. On va surtout évoquer des faits qui se sont produits sur le territoire de Midi-Quercy et les confins. Et au travers des registres de l'Inquisition, ça va nous promener sur un siècle à peu près, entre 1224 et 1329, voilà, sur des faits qui se sont produits sur ce territoire.
Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en général, le catharisme ou les cathares, on a plutôt l'impression que c'est dans le département de l'Aude. Et là, on parle des cathares en Midi-Quercy. Vous allez nous parler des cathares en Midi-Quercy.
Oui, et sur tout un siècle, quoi. C'est une présence après la croisade. C'est quand même... Ouais, c'est très intéressant, quoi. Ouais.
La croisade des Albigeois, non ?
Oui, c'est ça. Puisque les Albigeois étaient considérés comme le foyer des cathares. Et l'Albigeois, en fait, c'était le domaine des Trincavel et qui incluait l'Aude. Donc quand on pense sur la croisade, c'était le prétexte, c'était le catharisme. C'était la croisade contre les hérétiques cathares. C'était un prétexte, en fait, c'est ce qu'on appelait le prolongement de la longue guerre, grande guerre du Midi, qui a duré presque un siècle, où les rois, rois de France, rois d'Aragon, rois d'Angleterre, essayaient de se partager l'Occitanie, quoi.
Et d'ailleurs, il y a une exposition à Toulouse, au musée Saint-Raymond et aux Jacobins, qui parle bien de ce sujet, un peu en écho à cette conférence, mais... Ouais.
Et alors voilà, et à lui, la croisade, et pendant un siècle après la croisade, il y a encore eu une présence du catharisme, quoi, avec bien sûr pourchassé par l'Inquisition sur notre territoire. Voilà. Et c'est intéressant.
Vos documents sont des documents d'archives que vous avez retrouvés dans les archives départementales chez des particuliers. Comment vous êtes retracé le parcours ?
Les archives ont été publiées. Notamment par Duvernois, qui est à l'origine d'ailleurs du livre de Laurent Ladurie, Montaillou, village occitan, qui a été un succès international. Et donc nous, on a accès facilement à ce fonds d'archives parce qu'il a été quand même publié. Et effectivement, là, ce dont on va parler s'appuie sur les témoignages vivants qui ont été faits en occitan, puisque les gens à cette époque ne parlaient que l'occitan et que les ouvrages de sacré du catharisme, c'est-à-dire les traductions en fait de l'Ancien Testament, tout ça et tout, était en occitan. Donc c'est un fait. Bon voilà, donc de s'appuyer sur cette réalité linguistique, historique, ethnographique, c'est assez fort.
Vous êtes aussi à l'origine, je crois, du projet Alcantou.
Oui, c'est justement en faisant un travail de synthèse de la collection Alcantou que je me suis appuyé dans l'ouvrage qui s'appelle Racines et traditions occitanes de Tarn-et-Garonne, qui a été publié par le département de Tarn-et-Garonne, où j'ai un chapitre assez costaud sur le sujet, quoi, c'est-à-dire sur la croisade, et qui est très documentée, parce que la chanson de la croisade contre les Albigeois, elle est rédigée en occitan par Guillaume de Tudelle, qui était basé à Bruniquel, qui était chanoine de Saint-Antonin, et en tout cas la première partie de la chanson, elle est complétée toujours en occitan après, mais il n'a pas fait la totalité. Et donc on a la chance d'avoir tous ces documents qui sont en occitan. Alors pour l'Inquisition, ce sont des documents en latin qui ont été transcrits en français par la suite, mais dans les documents en latin, on trouve des originaux de témoignages en occitan, ou des termes occitans au milieu du latin, et ce qui fait que, bon, ce sont des termes qui sont encore en usage pour ceux qui ont eu la chance, c'est-à-dire la génération de mes parents et de mes grands-parents, de recevoir en héritage, quoi, l'usage de cette langue, quoi. Donc c'est pas mal, quoi, ça permet de donner un peu plus de substance, quoi, à l'histoire locale. Ouais.
On en saura plus, beaucoup plus, ce vendredi à partir de 18h30 pour la conférence que vous allez proposer, Catharisme en midi, car ce sera donc à 18h30 au château de Nègrepelisse. C'est une conférence qui est proposée en partenariat avec l'association Les Échanges Essentiels et dans le cadre de la programmation du Pays d'Art et d'Histoire. Aude, il n'y a pas que ça à faire dans les jours à venir. Dimanche, il y a aussi une visite guidée à Moricou, un peu spéciale, je crois.
En effet, on passe à quelque chose de complètement différent avec la bien connue Miss Grumpy, qui est guide conférencière un petit peu spéciale. Elle joue le personnage d'une... En tout cas, elle est déjà venue à Bruniquel plusieurs fois, et là, elle jouait le personnage d'une guide anglophone qui fait visiter le village de Bruniquel, et toujours de manière très, très drôle. En tout cas, c'est rire garanti, voire même fou rire. Et là, ce dimanche, elle débarque à Moricou, cette fois-ci, pour mener l'enquête autour de l'art, puisque Moricou a été un village très beaucoup peint, pris en photo par les artistes. Enfin, beaucoup, beaucoup d'artistes s'y sont installés aussi pour créer. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir mettre en valeur ce patrimoine artistique, le lier aussi au patrimoine architectural du village, à ses nombreuses maisons à pentes de bois. Donc voilà, Miss Grumpy va venir mener l'enquête en lien avec l'art. Et puis, il y aura un arrêt aussi au musée et château Marcel Lenoir. Donc, à la fois dans le village et une petite partie aussi au château. Donc, voilà, je pense que ça va être un bon moment, rire garanti, parce que c'est toujours des visites très décalées, quoi. C'est pas du tout visite classique. Et ça va vraiment pour tous les âges, en fait. Parce que à Bruniquel, on avait à la fois des enfants, des adultes, mais tout le monde s'amusait. Vraiment, tout le monde était intéressé.
Et sans aucune transition, encore une fois, après le catharisme en midi, Kercy, cette visite guidée décalée à Moricou, là, de l'orgue à Saint-Antonin-Nobleval, ce sera le vendredi 18 prochain, toujours dans le cadre de la programmation du Pays d'Art et d'Histoire du Pays midi, Kercy.
Oui. On fait des choses très variées. Mm-hmm. Donc là, l'orgue, le spectacle est organisé dans le cadre de notre programmation, parce qu'on voulait mettre en valeur l'orgue de Saint-Antonin qui a été restauré récemment et qui a été béni, parce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça que les orgues doivent être bénis par un évêque pour commencer à être joués. Enfin, voilà, c'est une obligation, en fait. Et quand un orgue est restauré, c'est comme une renaissance, donc forcément il faut qu'il soit à nouveau béni. Donc, on le bénit à sa création.
Et baptisé.
Baptisé. Et là, le spectacle, donc, c'est un spectacle de Baptiste Géniaud et Vincent Dubu. Baptiste Géniaud, lui, il va jouer de ce fameux orgue, et il va aussi faire des petites manipulations sonores. Et Vincent Dubu, lui, ça va plutôt être narration, parce que ça va être de la musique, mais aussi contée. Donc, il va nous raconter une petite histoire. Et là, en l'occurrence, l'histoire, c'est l'histoire de l'orgue. En 45 minutes, il va essayer de nous résumer 10 000 ans d'histoire, parce que l'orgue a 10 000 ans, apparemment. Donc, c'est à découvrir.
Peut-être les premières flûtes de pan.
Ouais, sans doute, ça doit être l'ancêtre des orgues. Ouais. Donc, ouais, c'est à découvrir au spectacle. 45 minutes, 10 000 ans d'histoire de l'orgue. Spectacle musical et conté. Ouais.
Pour en savoir plus, on peut faire le détour par le site du Pays Midi-Quercy ou feuilleter le guide du Pays d'Arrêt d'Histoire, les rendez-vous en Midi-Quercy où figure toute la programmation, notamment donc le prochain rendez-vous là, de ce vendredi du côté de Nègrepelisse en partenariat avec l'association Les Échanges Essentiels. On vous retrouve là-bas, Christian Pierre Bédel, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis pour la suite de la programmation, on la doit notamment à Aude Caverzan, chargée de programmation du PH, du PETR, du Pays Midi-Quercy. Merci Aude.
Merci Lisa.
Le MAG du Pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h, et en podcast sur le site cfmradio.fr.